France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. Et ce matin, on se demande si on a vraiment besoin de prendre des compléments alimentaires. Comme leur nom l'indique, ils sont conçus pour compléter une alimentation déjà équilibrée, non pour la remplacer ou assurer des performances, fatigue passagère, stress, stimulation du système immunitaire, déprime, douleurs articulaires, sommeil, ménopause, andropause. Les compléments alimentaires connaissent un engouement en pharmacie, en parapharmacie, dans les magasins bio, en grande surface ou encore sur Internet. Mais quelle est leur réelle efficacité, quels sont leurs effets secondaires possibles, leurs contre-indications, leurs compositions, quid des principes actifs et de leur interaction avec les médicaments, coup de projecteur. Également sur les compléments alimentaires dans le domaine de la santé mentale. Nous verrons comment des nutriments, des extraits de plantes ou des probiotiques concentrés dans un comprimé peuvent agir sur notre cerveau et notre microbiote intestinal intimement liés. Toutes vos questions et vos témoignages sur les compléments alimentaires au standard et sur WhatsApp au 01 45 24 7000 sur l'appli Radio France, sans oublier la page Facebook de l'émission. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse, Ali Rebbi.
Bonjour professeur Boris Ancel.
Bonjour Ali.
Vous êtes endocrinologue et nutritionniste à l'hôpital Bichat à Paris. Vous animez et coordonnez la chaîne PUMS pour une meilleure santé, une chaîne YouTube cofinancée par l'APHP et l'Université Paris Cité, une chaîne médicale anti-fake news, c'est bien ça ?
Absolument.
Bonjour docteur Guillaume Font.
Bonjour Ali.
Vous êtes médecin psychiatre, docteur en biologie cellulaire et moléculaire, chercheur en psychonutrition. Un mot de la psychonutrition ?
C'est l'influence de la nutrition sur le cerveau, le microbiote et la santé mentale.
Et vous venez de publier chez Flammarion « Compléments alimentaires et santé mentale » sous-titré « Cerveau et microbiote, le guide scientifique pour faire le bon choix ». Pour une totale transparence, précisons que vous êtes le cofondateur de Psaume, une entreprise qui développe des compléments alimentaires.
Oui, j'ai décidé de passer à l'action en 2024 parce que les gens me disaient « c'est bien les livres et les conférences, docteur Font, mais vous n'avez pas de solution à proposer derrière ». Donc je suis passé à l'action et j'ai des solutions.
Bonjour Sabrina Boutef-Nouchette, docteur Sabrina Boutef-Nouchette. Vous êtes pharmacienne, enseignante, chercheuse en pharmacognosie à l'Université Paris-Cité. C'est quoi, en quelques mots, la pharmacognosie ?
Alors, la pharmacognosie, c'est l'étude des substances naturelles qui ont des effets sur la santé pour en faire des médicaments ou d'autres produits de santé.
Alors, c'est quoi, ça tombe sur vous, docteur Boutef-Nouchette, c'est quoi exactement un complément alimentaire ?
Alors, un complément alimentaire, comme vous l'avez défini, c'est un produit qui est censé supplémenter une alimentation normale et c'est une source concentrée de nutriments, des vitamines et minéraux, mais pas que, des substances et des plantes. Et donc, ça va être un produit extrêmement complexe proposé sur le marché.
Alors, les compléments alimentaires sont-ils soumis aux mêmes règles que celles qui encadrent les médicaments ?
Pas du tout. Complément alimentaire, contrairement aux médicaments, est enregistré sur une base déclarative. Donc, les fabricants vont déclarer des produits avec la composition de leurs produits et n'ont pas du tout de dossier toxicologique ou de dossier qualité, même si c'est prévu par la réglementation. On n'a pas du tout, comme un produit de santé, donc médicament ou cosmétique, un dossier information produit avec une partie sécurité.
Et pour vendre un médicament, il faut prouver qu'il y ait davantage de bénéfices que de risques.
Alors, effectivement, donc un médicament, il y a une autorisation de mise sur le marché, une indication thérapeutique précisée, une posologie précisée, alors que pour un complément alimentaire, tout ça reste assez flou.
Docteur Guillaume Font, dans votre livre, vous évoquez quelques idées reçues sur les compléments alimentaires, notamment cette idée reçue, les compléments alimentaires sont moins bien évalués que les médicaments. Et à cette affirmation, vous répondez, vrai et faux ?
Alors en fait, effectivement, il y a d'une part ce qui vient d'être dit, qui est qu'au moment de la mise sur le marché, c'est pas du tout le même processus d'évaluation, mais c'est pas du tout le même objectif non plus. Moi, je parle dans le livre des données scientifiques. Donc il faut bien distinguer deux aspects, c'est l'aspect réglementaire d'un côté qu'on vient d'évoquer auparavant, et l'aspect scientifique. Et pour l'aspect scientifique, c'est les mêmes critères d'évaluation sur les essais contrôlés randomisés contre placebo en double aveugle que je présente dans le livre.
Contrairement à ce qu'on croit, docteur Boutef-Nouchette, même si les compléments alimentaires ne sont pas soumis aux mêmes règles que les médicaments, ce ne sont pas des produits anodins.
ce ne sont pas du tout des produits anodins. Il y a régulièrement des cas de nutrivigilance, donc des effets indésirables également, donc suite à l'utilisation, la consommation de compléments alimentaires.
Professeur Boris Ancel.
Oui, je pense que c'est important de bien distinguer le complément alimentaire utilisé comme un complément alimentaire et le complément alimentaire qui passe dans la catégorie des médicaments. Parce que les études scientifiques cliniques dont parle Guillaume, elles existent. Elles existent pour beaucoup de compléments alimentaires. Mais en réalité, à partir du moment où elles ont fait l'objet de cette évaluation scientifique, finalement, elles passent dans la catégorie médicaments pour lesquels on a un rapport bénéfice-risque favorable, une indication précise et où finalement, on va dire oui, il faut utiliser ces produits. D'ailleurs, nos autorités de santé le disent régulièrement. Si on prend l'exemple de la vitamine D, les autorités ont dit, oui, la vitamine D peut être intéressante dans certains cas, mais elles préconisent d'utiliser la vitamine D prescrite sous forme de médicaments. Parce que finalement, si on dit prenez ce que vous voulez, multipliez les compléments alimentaires, on ne sait plus trop ce qu'on fait.
Docteur Guillaume Font.
Alors, je précise pour la santé mentale que nous, on a les recommandations internationales de la Fédération des sociétés de psychiatrie biologique depuis 2022 et que c'est la France qui tarde effectivement à intégrer ces recommandations dans les recommandations françaises.
Docteur Boutef-Nouchette.
Oui, donc pour la vitamine D, effectivement, une supplémentation est intéressante et importante. Elle est même préconisée et recommandée. Le problème, effectivement, de recourir à des compléments alimentaires, c'est d'avoir des produits qui sont surdosés et ça a été un problème donc avec des nourrissons à qui on a donné de la vitamine D à 10 000 unités par goutte contre 100 normalement dans un médicament, ce qui a entraîné donc des effets indésirables graves. Donc c'est la capacité à donc offrir justement des produits extrêmement surdosés.
On reviendra sur la vitamine D tout à l'heure. Docteur Guillaume Font, est-ce qu'on n'a pas le réflexe de se tourner un peu trop facilement vers les compléments alimentaires, un peu à l'aveugle, sans savoir exactement si on en a besoin ou pas? Avant de consommer un complément alimentaire, ne vaudrait-il pas mieux faire une série de bilans biologiques pour repérer d'éventuelles carences et éventuellement d'abord adapter peut-être son alimentation et ensuite éventuellement se supplémenter?
Alors, je pense que les exemples qui viennent d'être donnés, en fait, sont paradigmatiques. On parle des nourrissons, par exemple, pour donner l'exemple du fait qu'un médicament, qu'un complément alimentaire peut être dangereux, prescrit sous forme de médicament avec la vitamine D. On est dans une situation ultra spécifique. Il y a des cas de nutrivigilance, effectivement, où il faut bien les séparer, parce qu'en fait, on fait un paquet ou complément alimentaire, on regroupe les extraits de plantes qui ont des vraies interactions, des nutriments qui font partie de l'alimentation, qui n'ont quasiment aucun effet indésirable, et des probiotiques qui sont des bactéries vivantes.
Vous ne répondez pas à ma question.
Et donc, pour répondre à la question, idéalement, en fait, chacun pourrait bénéficier d'un bilan individualisé. Pourquoi on ne le fait pas ? Pour plusieurs raisons. Déjà, un, ça coûte très cher. C'est pas remboursé pour la plupart des gens. Si on fait ça, on ferme la porte d'entrée à la plupart des personnes qui pourraient en bénéficier vraiment, parce que c'est les personnes souvent qui ont le niveau socio-économique le plus faible qui pourraient bénéficier le plus d'une approche complémentaire. C'est une demande des personnes concernées et ça, c'est une vraie demande au niveau des institutions. Pourquoi il y a des dosages qui ne sont pas remboursés, comme celui de la vitamine D qui a été déremboursé à la fin des années 2000, alors qu'il est vraiment très important. Donc, il y a une grande partie des médecins qui demandent le remboursement de 2 dosages par an de vitamine D. Un pour déterminer l'insuffisance, un pour vérifier que la supplémentation est efficace. Ça, c'est une mesure de santé publique très claire, qui, je pense, est consensuelle dans le monde médical, mais qui n'est toujours pas mise en place. Ensuite, moi, mon approche, je suis psychiatre, mais je travaille dans un laboratoire de recherche de santé publique. Donc, mon point, c'est la santé mentale de la population française. Et mon point, c'est de dire qu'il y a des approches qu'on peut déployer au niveau de la population sans passer par un professionnel de santé pour les oméga-3, pour la vitamine D. Quand on parle de la vitamine D, la limite supérieure de sécurité, elle est de 4000 UI par jour. C'est très, très largement 4000 unités international, c'est très largement au-dessus de la plupart des compléments alimentaires. Et à l'inverse, on a des ampoules qui sont prescrites par des médecins pendant l'hiver qui, elles, exposent à des risques de surdosage très importants et qui ne sont pas maîtrisés parce qu'ils ne sont pas suivis par des dosages. Donc en fait, on a les moyens d'améliorer la santé mentale de la population par des approches de santé publique sans passer par des professionnels de santé.
Professeur Boris Ancel, si on adapte son alimentation, si on respecte les recommandations nutritionnelles, si on consomme suffisamment de fruits, de légumes, de fibres, de protéines, de nutriments essentiels, à quoi bon prendre des compléments alimentaires ? Alors pour parle pas de la santé mentale, on y reviendra tout à l'heure, mais de façon très générale.
Alors c'est très important ce que vous dites, parce qu'il y a pas mal de fake news où on nous dit qu'aujourd'hui l'alimentation équilibrée ne suffit pas à couvrir nos besoins. La vitamine D est un exemple particulier sur lequel on va revenir, avec peut-être un intérêt à supplémenter tout le monde, peut-être pas, il y a quand même des débats là-dessus. Mais pour ce qui est de l'immense majorité des vitamines et minéraux, non. Toutes ces informations qui nous disent qu'aujourd'hui les fruits et légumes ne contiennent plus rien, ce sont des fake news. C'est basé sur des suppositions. Il y a énormément d'études scientifiques qui ont dit que non, oui, il y a probablement un peu moins, que le fait d'acheter des produits qui viennent de loin, qui ont été cueillis il y a longtemps, eh bien, il y a moins de vitamines que les produits locaux. Mais quand vous voyez qu'aujourd'hui, il y a 90% de moins que ce qu'il y avait avant, je peux vous donner pas mal de références qui remettent en question cette idée. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'en suivant les recommandations strictement proposées par les autorités, pour l'immense majorité des nutriments, on a ce qu'il faut. Alors oui, on n'est peut-être pas tous aux apports recommandés, c'est-à-dire ces chiffres que vous voyez, mais on n'a pas de carence. Et c'est très important de rappeler une notion importante, parce que quand on dit par exemple que la référence pour la vitamine C, c'est 110 mg, c'est une référence pour la population. Ce n'est pas une recommandation individuelle. Ça ne veut pas dire que si vous, vous êtes à 90 mg, vous êtes en carence, en déficit, et donc qu'il faut apporter un complément vitamine C. Ça veut simplement dire que 110 mg, c'est ce que les autorités ont recommandé pour la population, c'est-à-dire pour qu'on donne des conseils à la population. Et si vous consommez les fameux 5 fruits et légumes, dans l'immense majorité des cas, vous allez atteindre cette recommandation. Donc attention quand vous voyez des influenceurs qui vous disent « Ah, on est en carence !» de vitamine C, on est en carence de magnésium, on est en carence de ceci, de cela. Attention, non, on est en peut-être, pour beaucoup d'entre nous, en dessous de la référence, mais ça ne veut pas dire qu'on est en carence.
Docteur Guillaume Font.
Alors, je pense que c'est très important, parce qu'on risque de s'éparpiller et de pas les auditeurs risquent de ne pas comprendre pourquoi, en apparence, on peut tenir des discours différents. Moi, mon point, par exemple, je n'ai pas parlé de la vitamine C, et on est d'accord sur la vitamine C. Mon point, c'est ce qui est très bien démontré par des études épidémiologiques internationales, c'est que 80% de la population mondiale manque d'oméga 3, DHA et EPA. Il faut bien préciser quels oméga 3, parce qu'en fait, on peut aussi faire des erreurs avec des oméga 3 végétaux qui ne sont pas ceux dont le cerveau a besoin. Ça, c'est des études basées à la fois sur des enquêtes alimentaires et confirmées par des études avec des prises de sang sur des milliers de personnes en France, plus de 5000 personnes. Dans 142 pays, donc ça c'est publié. Et la bonne nouvelle, hein, c'est que les chiffres de la France se sont améliorés, mais que ça vient pas de la consommation de poissons, ça vient de la consommation de compléments alimentaires, puisque 70% des Français consomment des compléments alimentaires. Par contre, il y a moins 0,4% de Français qui consomment du poisson chaque année, et notamment du poisson gras une fois par semaine, qui est la recommandation de l'ANSES, je le rappelle, parce que c'est très insuffisant pour nourrir le cerveau en oméga 3. La vitamine D, on en a parlé, 100% des Français n'ont pas les apports alimentaires suffisants, c'est l'ANSES qui le dit, il faudrait s'exposer au soleil, mais on met de la crème solaire. Et ensuite, il y a la question des folates. Tous les médecins supplémentent les femmes enceintes en folates parce qu'il n'y a pas assez de folates dans l'alimentation et l'ANSES demande un plan de supplémentation de l'alimentation en folates.
On reviendra tout à l'heure sur la vitamine D, sur les oméga 3 ou encore sur les folates. Docteur Boutef-Nouchette.
Oui, donc effectivement, il y a des enquêtes épidémiologiques, ENNS et puis l'enquête Esteban qui a confirmé des carences. Donc effectivement, vitamine D, fer chez les femmes et folates sont vraiment les carences qui sont affirmé et confirmé dans la population suite à ces enquêtes. Donc il y a nécessité de supplémenter et donc là effectivement, à travers des compléments alimentaires ou son alimentation, enrichir ses apports est extrêmement nécessaire.
Et nous accueillons Lucie. Bonjour Lucie, bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour, quel est votre témoignage, Lucie ?
Bonjour, moi je témoigne n'importe quoi. Par rapport à mon problème d'arthrose généralisée que j'ai depuis au moins 40 ans, donc suite à de nombreux accidents, un travail très pénible depuis mon plus petit âge. Et donc j'ai essayé pas mal de compléments alimentaires, Boswellia, chondroïde, machin, et je trouve que ce qui me réussit le mieux et ce qui m'aide à marcher sans trop de douleur, parce que je pense qu'à l'heure actuelle, si je ne prenais pas ça, je serais sur une chaise roulante, c'est une préparation de gélules d'une grande pharmacie lyonnaise dont je tairai le nom, chondroïtine glucosamine. Et franchement, donc j'ai fait des petites fenêtres thérapeutiques de 2 semaines, mais j'ai remarqué que dès que j'arrête, 2-3 jours après, les douleurs recommencent plus fortes. Et quand je les reprends, ça se calme. Je sais bien que l'arthrose est là, elle ne partira pas. Mais ça m'aide quand même à arriver à marcher sans des douleurs extrêmes.
Docteur voilà. Sabrina Bouteff-Nouchette, sur le témoignage de Lucie.
Oui, donc chondroïtine, glucosamine sont des substances qui ont des effets. Il y a eu des médicaments, et il y en a encore, avec des études cliniques bénéfiques. Donc, ce sont des substances intéressantes qui doivent être prises au long cours et qui permettent donc de réduire les effets indésirables liés donc à l'arthrose chez ces patients.
Et merci beaucoup, Lucie, pour votre témoignage. Alors, comme le complément alimentaire n'est pas un médicament, il ne peut pas revendiquer un effet thérapeutique. En revanche, les allégations nutritionnelles et de santé qui peuvent être indiquées sur le produit sont strictement encadrées, c'est bien ça. Et il s'agit d'un nombre limité d'allégations santé, docteur Bouteff-Nouchette.
Oui, tout à fait. Alors, en fait, les allégations santé les plus encadrées sont celles qui visent les vitamines et minéraux, où là, il n'y a aucune ambiguïté, même si on peut aller vers de nouvelles allégations potentiellement en santé mentale. Par contre, il y a une grosse problématique sur les autres substances et sur les plantes pour lesquelles, en fait, on a une liste d'allégations pas du tout évaluées actuellement, ça s'appelle des allégations en attente, et on est dans une espèce de fourre-tout où on va retrouver toutes les promesses imaginables sur les produits sans qu'il y ait eu de validation scientifique pour ces plantes.
Docteur Guillaume Font.
Oui, en fait, c'est le problème de la réglementation. J'explique dans le livre, en fait, les différences entre les réglementations, parce que nous, en fait, on raisonne sur l'Union européenne, mais en fait, il y a aussi des réglementations aux États-Unis, en Corée du Sud, au Japon, en Chine. Donc, je compare ces réglementations et au Canada aussi. Le Canada, en fait, est un des pays les plus innovants, en fait, pour la partie santé mentale. Donc, par exemple, les oméga-3 peuvent avoir des allégations de santé sur la cognition au Canada, alors que c'est pas le cas en UE. En UE, il y a que le DHA qui peut se revendiquer avoir une action sur le cerveau à partir de 250 mg, alors que l'EPA n'a pas d'allégation de santé, alors qu'il est tout aussi intéressant en santé mentale.
Dans quelques instants, Constance vous posera une question. N'hésitez pas, comme elle, à appeler au 01 45 24 7000. On continue à se demander si on a vraiment besoin d'avaler des compléments alimentaires. Sont-ils notamment utiles pour améliorer sa santé mentale? On se retrouve juste après avoir écouté Martha Reeves et les Vandellas qui interprètent Love is like a heat wave, une chanson de 1963, 10h23 sur Inter. Martha Reeves et les Vandellas interprétés Love is like a heat wave.
Ali Rebéi. Grand bien vous fasse sur France Inter.
Et ce matin, on se demande si on a vraiment besoin de prendre des compléments alimentaires en compagnie du professeur Boris Ancel, de la docteure Sabrina Bouteff-Nouchette et avec également le docteur Guillaume Font qui publie « Compléments alimentaires et santé mentale ». Et nous accueillons Constance. Bonjour Constance.
Bonjour.
Bienvenue.
Marie.
Bonjour.
Bonjour à tous, merci de m'avoir accueilli pour ma question. J'ai 52 ans, j'habite à Nantes. Mm-hmm. Et j'ai une question que je me pose depuis un petit moment. Mm-hmm. J'ai toujours été, disons, je souffre encore de irritabilité liée mm-hmm. au syndrome prémenstruel. Mm-hmm. Et maintenant que je pense que je rentre en périménopause, c'est pas tout à fait très flagrant, mais l'irritabilité est toujours là. Mm-hmm. Et c'est toujours épisodique, toujours voilà, des périodes précises, moi je le sens. Mmh. Et c'est quelque chose qui est difficile à gérer d'une certaine façon au quotidien.
Oui.
Pendant quelques jours. Et je me demandais s'il y a un complément alimentaire qui puisse contrer cette chose-là spécifique.
Et docteur Sabrina Bouteff-Nouchette.
Alors là,
je rappelle que vous êtes pharmacienne.
Je suis pharmacienne, je suis responsable d'un DU de phytothérapie et du coup, pour la ménopause, il y a énormément de plantes mm-hmm. et effectivement disponibles en médicaments de phytothérapie, donc qui seront de très bonne qualité. Mm-hmm. Effectivement, il y en a qui sont disponibles en complément alimentaire. Alors là, il faudra faire extrêmement attention. Là, il y a des plantes comme le simicifuga, comme le lactéen grappe qui sont proposées pour ces symptômes-là.
Redonnez les noms.
La simicifuga, Actaeon grappe, et vous avez le gatilier aussi qui se positionne sur ce type d'indication, mais il faut être extrêmement vigilant, faut être vigilant parce qu'il y a des effets hormonaux qui ne sont pas anodins, et il faut être sûr qu'on est en carence œstrogénique quand on va vers ce type de produit. Donc là, il faut un suivi, et un suivi gynécologique.
Notamment. Docteur Guillaume Font, je rappelle que vous êtes psychiatre et docteur en biologie cellulaire et moléculaire.
Oui, en fait, la santé mentale des femmes est moins étudiée que la santé mentale de la population en général. Alors, il y a des explications à ça. C'est pas que le fait qu'on soit dans une société axée sur les hommes, même si c'est une explication historique. C'est aussi que c'est plus compliqué d'étudier certaines périodes hormonales, parce qu'il y a des fluctuations pour la périménopause, définir par exemple où est-ce qu'on en est de la ménopause. Mais en fait, les études vont dans le sens, avec des études de neuroimagerie, en fait, de besoins cérébraux spécifiques qui augmentent à partir même de l'âge de 35 ans chez les femmes. Et il y aurait donc des intérêts avec les oméga-3, les folates dont on a parlé, mais aussi le zinc. Parce qu'il y a des neurones à glutamate qui fonctionnent uniquement avec du zinc, et le brouillard cognitif qui est décrit par beaucoup de femmes en période de périménopause peut être amélioré par une supplémentation ciblée, parce que le zinc a une allégation de santé dans la concentration. Notamment.
Mais en l'espèce, par exemple, pour le zinc, c'est une prise prolongée, c'est des prises pendant 2 à 3 semaines, on arrête 15 jours.
Alors ça, c'est l'exemple du zinc, il est hyper intéressant. En fait, les professionnels de santé n'ont pas les moyens de supplémenter correctement avec des prescriptions, parce que les compléments alimentaires sur prescription de zinc sont trop dosés, c'est 15 mg, le plus petit dosage de gluconate de zinc, et donc la plupart des gens vont se retrouver en surdosage assez rapidement, parce que la dose cible, selon les personnes, c'est entre 5 et 10 mg si on regarde les études épidémiologiques. Donc il vaut mieux une supplémentation modérée au long cours que de grosses mégadoses sur des périodes très courtes, ce qui est pratiqué actuellement dans beaucoup de compléments alimentaires.
Professeur Boris Ancel, je rappelle que vous êtes endocrinologue.
Oui, j'aurais rappelé à cette auditrice et à toutes celles et ceux qui nous écoutent avec des symptômes d'avoir d'abord un diagnostic médical. Ce que nous décrit cette auditrice nécessite vraiment un diagnostic. Vous savez, les troubles qu'on peut avoir au moment des règles vont depuis ce qui est entre guillemets physiologique, à partir du moment où ça n'impacte pas votre vie quotidienne. On a le droit d'avoir des modifications, toutes et tous, les femmes, les hommes, au cours de la vie. Et puis, à l'extrême, des véritables troubles, notamment, il y a ce qu'on appelle le syndrome dysphorique prémenstruel, qui est une vraie problématique, qui est négligée, et où on dit aux femmes, c'est normal, vous avez vos règles. Donc, ce qui est très important, à mon avis, pour toutes les personnes qui ont des symptômes, c'est d'avoir un diagnostic précis. Parce que sinon, on va demander à son copain, à sa copine, sur Internet, qu'est-ce que je peux prendre, et on passe à côté d'un diagnostic. Le risque, à mon sens, d'une auto-prescription de compléments alimentaires ou de prendre des compléments sur le conseil d'une telle ou d'un tel, c'est de passer à côté d'un diagnostic. Vous savez, moi, dans mon domaine, je vois des personnes qui viennent nous voir avec de multiples symptômes et très souvent ils ont erré à droite, à gauche avec des conseils donnés par les uns les autres et finalement les diagnostics de base, je dis bien de base, n'ont pas été faits et on aurait pu les soulager avec des traitements validés.
Docteur Font.
En fait, le retour que j'ai des personnes qui vont voir leur médecin, c'est que donc la périménopause et le syndrome prémenstruel, le trouble dysphorique prémenstruel, sont pris en charge en gynécologie. Et en fait, les gynécologues sont pas du tout formés sur le cerveau. Il y a un cloisonnement des disciplines. Et donc, c'est pour ça que beaucoup de symptômes ne sont pas attribués correctement à la périménopause, notamment des symptômes de santé mentale. Donc, en fait, ça, c'est le retour que j'ai quotidiennement. C'est que les médecins ne savent pas répondre sur ces problématiques-là et la question en particulier des compléments alimentaires.
Docteur Boutin. Mouchette.
Moi, je voulais rebondir là-dessus. Effectivement, le problème des compléments alimentaires, je pense que c'est que les gens les utilisent en automédication pour des symptômes qui nécessitent effectivement de consulter un médecin. Et une fois que le diagnostic est établi, voir quel type de complément alimentaire éventuellement peut être proposé, mais jamais les prendre en première intention sans avoir fait cette étape-là de diagnostic. Ça me paraît primordial.
Je rappelle les recommandations de l'ANSES pour limiter les risques avec les compléments alimentaires. Demander conseil à un professionnel de santé, éviter les prises prolongées, répétées ou multiples, respecter les conditions d'emploi, être vigilant quant aux produits présentés comme miraculeux et puis privilégier plutôt les produits vendus dans des circuits les mieux contrôlés. Docteur Font.
En fait, moi, mon point, comme j'ai une approche de santé publique, c'est là où je comprends pas, en fait, qu'on met tout dans le même panier, en fait. C'est-à-dire que les oméga-3, par exemple, si on respecte les doses recommandées par l'ANSES et le FSA, hein, donc c'est des recommandations officielles, l'ANSES dit 500 mg d'oméga-3 par jour, dont 250 mg de DHA. C'est publié, c'est pour la population. Donc, en fait, il n'y a pas de risque à prendre 250 mg de DHA par jour si on respecte les doses indiquées par l'ANSES. La vitamine D, c'est la même chose. La référence nutritionnelle pour la population, elle est de 15 microgrammes par jour, c'est publié, c'est 608, on est très très loin de la limite supérieure de sécurité. Donc en fait, on mélange tout et je pense qu'on rate en fait une mission de santé publique qui est de permettre à toute la population, y compris les personnes qui ont le moins de moyens financiers, de bénéficier de supplémentations qui peuvent vraiment les aider.
Docteur Boutefouchet.
Oui, je pense que c'est important de bien faire la part des choses entre les besoins d'une supplémentation qui est physiologique et nécessaire et éviter justement les supplémentations avec des doses trop importantes ou avec des produits qui vont avoir des effets thérapeutiques et des risques d'interaction.
Oui, mais ça, je pense que c'est le rôle de nos autorités de mettre en place les politiques qui vont bien. Comme le dit Guillaume, si on doit supplémenter certains aliments en folate, ben, il va falloir le faire. Mais il ne faut pas que ça induise une crainte qu'on est tous carencé et qu'il faut qu'on prenne tous des compléments alimentaires en demandant à son voisin, à sa voisine ou à n'importe qui ce qu'on devrait prendre pour aller mieux. C'est là qu'en fait il y a un dérapage.
Merci Constance de nous avoir appelé à retour de la table avec nous, un auditeur fidèle, Franck Thérieux, qui est éleveur à Quessac, en Corrèze, de passage à Paris pour le Salon de l'Agriculture, et vous êtes président du comité interprofessionnel du Veau sous la mer, auditeur fidèle donc depuis 10 ans, et vous avez une question ou un témoignage.
Oui, j'avais une question là, à l'instant, concernant les oméga-3. Je suis d'une région, la Corrèze, le Lot, la Dordogne. Enfin, il y a la noix du pays, la noix du Périgord chez nous, et je voulais savoir, on dit que la noix est riche en oméga-3, donc je voulais savoir si en consommant des noix régulièrement ou de l'huile de noix, c'est le type d'oméga-3, c'est le même qu'il y a dans les poissons gras dont vous parliez tout à l'heure.
Et non, malheureusement, en fait, la noix fournit de l'ALA, donc qui va se convertir à hauteur de 10% seulement en EPA et en moins de 0,5% en DHA, et c'est le DHA dont a besoin le cerveau structurellement pour la fluidité des neurones.
Et nous accueillons Marie. Bonjour Marie.
Bonjour à tous.
Bonjour, d'où appelez-vous Marie ?
Du Gers.
Ah, très. Ouh là là, très très belle journée que je, région que je connais très bien, où j'ai passé de belles journées justement. Et alors, quelle est votre question, Marie ?
Alors, vous parliez d'automédication. Moi, ma question est la suivante. À quel professionnel de santé faut-il s'adresser pour savoir si nous sommes en carence de quelque chose ? Et au lieu de faire de l'automédication, comme vous le disiez, avec un tel qui nous donne des conseils, voilà. Donc, auprès de quel personnel de santé faut-il se tourner ? Médecin généraliste, faire des prises de sang ? ou bien naturopathe, etc. Merci.
Docteur Boutef-Nouchette.
C'est une très bonne question, effectivement. Donc, vous avez des professionnels de santé qui vont se former et se former à la micronutrition, voire à la naturopathie, ça existe. Et moi, je pense que c'est indispensable de passer par cette étape professionnelle de santé qui va avoir la vision la plus globale sur votre état de santé. Et effectivement, quelqu'un qui est ouvert à ces approches complémentaires, qui va se former par des DU qui sont donc orientés vers ces professionnels de santé. Pour les naturopathes, il y a la problématique effectivement de la reconnaissance de cette pratique, de cette profession. Effectivement, donc on peut s'installer naturopathe en France, mais il n'y a pas de réglementation, de formation encadrée. Il y a cependant des écoles de naturopathie, donc une fédération d'écoles de naturopathie qui garantit donc une charte de qualité, mais il y a également beaucoup de formations naturopathiques qui ne sont pas du tout encadrées. Donc là, il faut faire extrêmement attention.
Mieux vaut se tourner vers son médecin. Moi, je demande régulièrement à mon médecin des dosages pour voir si j'ai des carences.
Oui, il faut que les médecins, et ça, je pense qu'il faut que les professionnels de santé se forment. Il faut que les professionnels de santé se forment, ne soient pas fermés, parce qu'il y a beaucoup cette posture aussi de fermeture qui fait qu'on va se tourner vers d'autres professionnels. Il faut que les professionnels de santé se forment, s'informent sur justement l'avantage et le bénéfice de ces suppléments.
Et certains dosages ne sont pas pris en charge par la Sécu.
Oui, tout à fait.
Docteur Font.
Oui, ça, il faut le préciser, c'est qu'en fait, les consultations de micronutrition sont plus longues et non remboursées. Donc, en fait, entre le prix des consultations et le prix des bilans complémentaires, on est à plusieurs centaines d'euros, ce qui n'est pas accessible pour beaucoup de personnes.
Merci beaucoup pour votre question, Marie. Alors, j'ai repéré dans votre livre, docteur Guillaume Font, compléments alimentaires et santé mentale, quelques idées reçues. Vous allez nous dire assez rapidement, vrai ou faux, ou les deux. Les compléments alimentaires sont inutiles. On trouve tout ce dont on a besoin dans une alimentation équilibrée et variée.
Donc là, c'est ce que j'ai commencé à expliquer, c'est faux. En fait, si on prend l'exemple des poissons
gras... Vous dites
gras,
vrai et faux dans votre livre.
Alors, oui, parce qu'en fait, la partie vraie, on l'a déjà évoquée. Ouais. Donc là, je vais accentuer ce que les gens ne savent pas, c'est-à-dire la partie faux. Parce qu'effectivement, on se dit, les compléments alimentaires ne poussent pas sur les arbres. Donc oui, d'accord, ça paraît intuitif. Sauf que si on prend l'exemple des poissons gras, la moitié des poissons gras consommés du poisson d'élevage. Les poissons d'élevage sont nourris désormais majoritairement avec des huiles et des farines végétales. Leur taux de DHA et de PA a été divisé par 2 en 15 ans. Ça veut dire qu'avec la même portion de poisson gras, je consomme deux fois moins d'oméga 3. Si je respecte la recommandation du Programme National Nutrition Santé 2024, je ne dois pas consommer plus d'une portion de poisson gras par semaine, même les petits poissons. Il n'y a pas eu de recommandation de l'ANSES sur ce point. Par rapport au risque d'intoxication aux métaux lourds, aux PFAS, dioxines, méthylmercure, depuis 2010. Donc je ne peux pas nourrir mon cerveau correctement en fait, avec une alimentation saine et équilibrée. Et même l'INRAE à Montpellier, dans ses recommandations, quand ils avaient comparé les protéines animales et végétales, recommandations 2022 publiées, ont sorti les oméga-3 du calcul parce que ce n'était pas possible d'atteindre les objectifs dans une alimentation saine et équilibrée.
Autre idée reçue avec les compléments alimentaires, plus besoin de médicaments.
Oui, donc ça, je le dis dans le livre. Hein. Pour moi, c'est tellement absurde, en fait, comme idée reçue que j'ai hésité à la mettre dans le livre. Mais en fait, les opposants aux compléments alimentaires caricaturent le propos. Et c'est ça, en fait, ce qui est difficile, c'est qu'il faut rééquilibrer à chaque fois. Parce qu'en fait, personne n'a dit qu'on arrêtait les médicaments. Il faut toujours prendre l'avis de son médecin prescripteur pour arrêter un médicament. Et surtout, les études scientifiques montrent que les deux ensemble sont plus efficaces que chacun séparément.
Autre idée reçue, les compléments alimentaires, c'est de l'effet placebo.
Donc la réponse est non pour les compléments que je vous présente. Donc une méta-analyse, 17 000 participants, méta-analyse en réseau 2025, pas de conflit d'intérêts parmi les auteurs, 44 compléments alimentaires évalués, deux tiers font mieux que le placebo et même sont comparés aux antidépresseurs.
Docteur Sabrina Boutef-Nouchette.
Moi je voudrais compléter, parce qu'il y a des compléments alimentaires bien conçus, bien pensés, puis il y en a d'autres, c'est un petit peu des fourre-tout et on va trouver effectivement des chiffres lins de chaque ingrédient, puisqu'en fait on est en complément alimentaire, on peut mettre ce qu'on veut de ce qui est autorisé sur les listes, au dosage qu'on souhaite, et parfois avec des ingrédients qui sont de mauvaise qualité, qui sont dilués, donc il y a énormément de falsifications et de problématiques de qualité à noter, et donc je pense que certains... Et on a un effet placebo parce que souvent sous-dosé, il y a des études qui montrent que parfois il y a 0% de l'ingrédient noté sur la boîte, notamment l'étude Now d'Amazon, donc étude du marché américain des compléments alimentaires, où il n'y avait pas de bisglycinate de magnésium dans les produits qui en affichaient.
Je m'adresse à la pharmacienne, comment trouver des compléments alimentaires de qualité bien dosés? Comment on fait?
Alors en France, on a un système d'enregistrement la plateforme Complalim, et on a la liste de tous les compléments alimentaires enregistrés. Donc on peut aller voir quel est le complément alimentaire qu'on souhaite. Et on peut regarder s'il a été correctement enregistré. On peut aller voir sur la plateforme Contre-l'Alim si ces ingrédients sont bien autorisés. C'est une recherche accessible au grand public. Vous pouvez voir si votre ingrédient est autorisé en France, en Europe, et s'il n'y a pas d'effet indésirable, contre-indication, voire interaction médicamenteuse. Donc ça, c'est des outils qui peuvent être utilisés en routine.
Boris Ancel.
Oui, Guillaume a dit dans les essais cliniques, globalement, 2/3 des compléments alimentaires font mieux que le placebo. Attention, ça ne veut pas dire que 2/3 des compléments alimentaires sur le marché font mieux que le placebo. Je dirais même pas du tout. Dans les essais cliniques, justement, ce qui est évalué, c'est quelque chose qui a été vraiment travaillé, vraiment étudié. On note une grande hétérogénéité, ça veut dire que c'est pas n'importe quel complément alimentaire à n'importe quelle dose dans n'importe quelle situation. Donc oui, les compléments alimentaires bien utilisés à la bonne dose, chez la bonne personne, globalement sont efficaces dans les études scientifiques. Mais moi, j'ose dire que la majorité des compléments alimentaires qui sont sur le marché, non, ils ne fonctionnent pas et le rapport bénéfice-risque peut être même très défavorable.
Moi, je reviens là-dessus. Donc, en fait, on n'a pas de dossier qui engage un expert toxicologue à l'enregistrement du complément alimentaire, contrairement aux médicaments, contrairement aux cosmétiques. Et tant qu'on n'aura pas résolu ce problème en France et en Europe, puisqu'on est dans une réglementation européenne, je pense qu'on prend des risques et on n'a pas envie d'un scandale comme celui qui est arrivé au Japon avec 80 décès liés à un complément alimentaire à base de levure de riz rouge, parce qu'il y avait un contaminant qui n'a pas été détecté lors de la mise sur le marché.
Juste si je peux rebondir sur la levure rouge de riz, parce que c'est la levure rouge du riz, c'est pas du riz rouge, mais c'est, on comprend de quoi on parle, ça c'est un vrai problème. Et regardons juste cette histoire, dans la polémique autour
qui était
des...
notamment utilisée contre le cholestérol.
Absolument, ouais. Donc on a tellement tapé sur les médicaments, les statines, je précise, je n'ai aucun lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, et on a commencé à dire, bah voilà, une alternative, c'est la levure rouge de riz. Sauf que cette levure rouge de riz qui était vendue sous forme de complément alimentaire, c'est de la statine. Et qu'il y a eu, des catastrophes, des effets secondaires gravissimes qui ont été enregistrés, si bien que les autorités européennes ont finalement interdit de vendre sous le label complément alimentaire la levure rouge de riz à sa posologie efficace. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on la retrouve en pharmacie à des doses qui n'ont pas d'effet, parce qu'on s'est enfin rendu compte, on a enfin admis que c'était aussi dangereux, voire plus dangereux qu'un médicament.
D'autant plus que les gens la prenaient en plus de leurs médicaments.
Ah mais moi j'ai eu un cas,
des effets indésirables qui sont liés à ça. Oui.
En 20 ans de parcours, j'ai eu zéro rhabdomyolyse, donc zéro effet grave lié aux statines chez mes patients. Alors oui, des petits effets secondaires qui nécessitent une adaptation des traitements, ça c'est fréquent, mais j'ai eu un cas de rhabdomyolyse chez un patient qui prenait de la levure rouge de
Encore une fois, il faut bien rappeler qu'il ne faut pas tout mélanger et agiter des épouvantails, parce que là, on parle effectivement souvent dans la catégorie plutôt extrait de plantes molécules apparentées aux plantes, et ça ne concerne pas les vitamines, les minéraux et même les probiotiques qui sont vraiment une catégorie à part, en fait, qui sont étudiées à part. Donc, quand les gens entendent compléments alimentaires, ils mettent tout ça dans la même catégorie. Donc, il faut faire vraiment attention à ça.
C'est vrai, vitamines et minéraux, bien dosés, il n'y a aucun problème. Surdosés, c'est problématique. Oui.
J'aimerais qu'on s'intéresse donc aux compléments alimentaires en matière de santé mentale. Vous vous êtes basé notamment, Guillaume Font, dans votre livre, sur une méta-analyse publiée en 2025, une méta-analyse publiée dans la revue médicale britannique Psychological Medicine, avec des participants à cette étude qui étaient âgés de 20 à 85 ans, et ils ont été suivis entre 2 et 56 semaines, c'est ça ?
Oui, en fait, on parle donc des adultes, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger, par exemple, les nourrissons, les surdosages, etc., parce que sinon, effectivement, on part dans beaucoup de directions différentes et on noie le message de santé publique. C'est une méta-analyse qui est publiée dans une grande revue de psychiatrie, Psychological Medicine. C'est une revue reconnue, ancienne. Le travail est très sérieux et il y a zéro conflit d'intérêt chez les auteurs. Ça, il faut le rappeler parce qu'on pourrait dire aussi que c'est porté par des études de l'industrie.
Et cette méta-analyse portée sur la dépression ?
Oui, donc c'était une méta-analyse sur la dépression. 17 000 participants, 44 compléments alimentaires testés dans la dépression, soit seuls, soit en association avec les antidépresseurs, donc contre un placebo ou un autre traitement actif.
Alors, il y avait par exemple des oméga-3, de la vitamine D, du zinc, du méthylfolate, des probiotiques, du safran, encore du curcuma.
Exactement, et de la théanine, en fait. Et donc, ce qui est extraordinaire dans ce travail, c'est qu'on a le classement à la fin, parce qu'en fait, on peut classer par ordre d'efficacité les résultats. Et donc, on a aussi le profil de tolérance, parce qu'on parlait de la sécurité. Et donc, on peut voir, et il y a quelque chose de très intéressant pour les professionnels comme moi, c'est qu'il y a aussi les taux de rémission. Et en fait, donc ça, c'est un autre critère d'efficacité qui est jugé extrêmement fort. Et on voit, par exemple, que théanine et safran, oméga-3, vitamine D, zinc, méthylfolate sortent, et probiotiques sortent efficaces.
Alors, vous parlez beaucoup des oméga-3 depuis le début de cette émission. Quels sont les effets réels des oméga-3 sur l'anxiété et la dépression? Que nous disent les études scientifiques? Et vaut-il, par exemple, mieux prendre des oméga-3 marins ou des oméga-3 sous forme de végétaux? Expliquez-nous un petit peu d'abord l'efficacité des oméga-3 sur l'anxiété et la dépression, en tout cas des dépressions légères à modérées.
Pas que légères à modérées, en fait.
Même dans sur cette les dépressions
oui,
plus,
oui.
plus
dans cette méta-analyse, vous avez un tableau sur les dépressions sévères aussi. Donc, il n'y a pas de distinction. Alors après, les recommandations changent. Donc ça, j'explique tout, en fait, dans le livre. Par exemple, le millepertuis, dont on parlera peut-être, c'est une dépression légère à modérée. Mais en fait, pour la plupart des compléments, l'efficacité se retrouve quel que soit le niveau de sévérité de la dépression. Donc, et ça peut être combiné avec des traitements antidépresseurs. Il n'y a pas d'opposition avec un médicament. Et donc, pour les oméga-3, donc maintenant, quand on regarde... Non seulement il y a 7 méta-analyses, mais toutes les méta-analyses publiées depuis 20 ans, parce que la première c'était en 2007, je le rappelle, et ouais, je vous en parle, Ali, depuis 2017, j'étais déjà venu, je me rappelle, en 2017, parler des oméga-3.
Ça ne rajeunit pas.
Et, tout à fait. Et en fait, c'est pas mon obsession personnelle, les oméga-3, c'est juste qu'en fait, c'est un des compléments alimentaires où on a le plus de données scientifiques, la vitamine D également, maintenant on a des méta-analyses, 2 méta-analyses, qu'on appelle en ombrelle, donc c'est vraiment le plus haut niveau scientifique, il n'y a plus de débat sur l'efficacité. Après, on a parlé avec Boris Ancel de l'hétérogénéité. En fait, l'hétérogénéité, ça veut dire que d'une étude à l'autre, on peut avoir des résultats très différents. Bien sûr, ça vient de la dose du complément alimentaire, de la durée, mais également aussi du type de dépression, d'anxiété qu'on est en train de traiter, s'il y a une inflammation ou pas. Il y a beaucoup de facteurs qui font varier l'hétérogénéité. Et en santé mentale, c'est plus la règle que l'exception. Donc, quand les personnes parlent de l'hétérogénéité, elles disent « Ouh là là, il y a trop de variations ». Mais en fait, en santé mentale, c'est ça, parce qu'on est vraiment très différents les uns des autres.
Alors, vaut-il mieux prendre en l'espèce des oméga-3 marins ou des oméga-3 végétaux?
Alors, pas d'oméga-3 végétaux, c'est-à-dire l'huile, les graines de chia, les graines de lin, les noix, ça suffira pas, on en a parlé. Par contre, mon point, c'est que d'un point de vue de santé publique, les poissons ne peuvent pas, à eux seuls, être la solution. Alors, il y a des études américaines qui ont montré que même les personnes qui consomment 2 fois par semaine du poisson gras n'atteignent pas le niveau idéal d'oméga-3, l'indice d'oméga-3 de 8%, et que c'est la combinaison avec une supplémentation qui est la plus efficace. Et mon point, c'est que d'un point de vue planétaire, en fait, il n'y a que l'huile d'algues, de micro-algues, schizochytrium, qui est l'origine des oméga-3 dans le plancton dont se nourrissent les poissons, qui serait la solution pour nourrir les cerveaux de 8 milliards d'êtres humains, parce qu'il nous manque 70% du stock de DHA mondial pour nourrir les cerveaux.
Expliquez DHA, EPA.
Alors DHA, c'est l'oméga-3 structurel des membranes des neurones. 10 à 20% des graisses du cerveau sont du DHA. Le cerveau, c'est l'organe le plus graisseux après la graisse. Et l'EPA, en fait, c'est un oméga-3 qui a plutôt des propriétés anti-inflammatoires, mais il n'y a pas d'allégation de santé anti-inflammatoire. Donc en fait, on peut pas le dire d'un point de vue réglementaire, mais on a les données scientifiques.
Docteur Boutef-Nouchette.
Oui, moi je pense que les oméga-3, il faut y aller, c'est vraiment de la supplémentation importante. Par contre, moi ce qui me dérange, c'est le positionnement des pressions et compléments alimentaires chez des patients qui doivent être suivis par des professionnels de santé qui vont les accompagner. Et le produit miracle qui va résoudre leurs problèmes, moi, ça, voilà, donc c'est un point de conscience. Je pense qu'il faut faire extrêmement attention à ça.
Boris Ancel.
Oui, 2 points, je suis tout à fait d'accord. Je pense que il n'y a pas de doute de l'intérêt des oméga-3 chez certains patients à certaines doses, mais ça doit être prescrit dans le cadre du traitement de la dépression. Le risque, encore une fois, c'est de se dire « ben moi, je n'ai pas besoin de médicaments », même si Guillaume, tu ne l'as pas dit, je sais qu'il y a beaucoup de personnes
qui... Je dis l'inverse, oui.
Voilà, mais je voudrais encore le répéter, parce que c'est souvent ça qu'on entend. Deuxièmement, les oméga-3, oui, dans certaines indications, oui, à certaines doses, mais attention tout de même, vous savez, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on parle de l'intérêt des oméga-3 en maladie cardiovasculaire. On sait aujourd'hui qu'à part une certaine forme d'oméga-3 à une certaine dose, il n'y a pas de bénéfice et on est largement revenu sur cette idée. Et attention, ce n'est pas tout à fait anodin. Même aux doses de compléments alimentaires, la FDA, l'Agence européenne du médicament, a mentionné...
La FDA, c'est l'Agence américaine du médicament.
Absolument. Ont mentionné un surrisque de troubles du rythme cardiaque. Et encore une fois, moi, un de mes patients qui prenait des oméga-3, je l'ai retrouvé en cardiologie parce qu'il faisait de l'arythmie. Hein.
Allez, on continue à se demander s'il faut prendre des compléments alimentaires, notamment pour améliorer sa santé mentale. On se retrouve juste après avoir écouté Bertrand Belin qui interprète Berger. 11h10 sur Inter.
Si j'avais un troupeau, j'aurais peur de le perdre. Voilà pourquoi, berger, j'ai pas fait berger, berger. J'aurais peur de le perdre. Au bas des falaises, adieu l'amour fou. Bonjour la terre anglaise. Si j'avais un troupeau, j'aurais peur de le perdre. Des traces dans la neige, que sais-je, un torrent de boue, un trou. Si j'avais un troupeau, j'aurais peur de le perdre. Voilà pourquoi berger, j'ai pas fait berger, berger. J'ai pas fait berger, berger. Il pleut, il pleut. C'est l'ondé, il sera tout mouillé. Si j'avais un troupeau, j'aurais peur de le perdre. Voilà pourquoi, berger, j'ai pas fait berger, berger. J'ai peur de le perdre. Au bas des falaises, adieu l'amour fou. Bonjour la terre anglaise.
Bertrand Belin interprété berger.
Grand bien vous fasse.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Ali Rebéi.
Ah bon ? Eh bien, grand bien lui fasse.
Sur France Inter.
Et ce matin, on se demande si on a vraiment besoin de prendre des compléments alimentaires avec les médecins et chercheurs Boris Ancel, Sabrina Bouteff-Nouchette et Guillaume Font. Et nous accueillons Pauline. Bonjour Pauline.
Bonjour à l'antenne, bonjour à tous.
Bonjour Pauline, quelle est votre question ?
Alors ma question concerne une jeune adulte, ma fille, qui est en fin de parcours dans son cursus scolaire. Elle est dans une grande école. Je brosse un peu le tableau pour vous dire que c'est une jeune fille qui se nourrit correctement, qui est résistante par ailleurs et qui a fait ses preuves là-dedans. Et pourtant là, elle se trouve dans une phase qui se rapproche de la déprime, voire de la dépression, parce qu'elle a un peu de mal avec la grosse pression sur le plan professionnel, l'amplitude horaire de ce qu'on attend d'elle. Et justement, avant de passer à des antidépresseurs, je me demandais s'il n'y avait pas un coup de pouce à chercher du côté des compléments alimentaires.
Et docteur Guillaume Font, qui est psychiatre, va vous répondre.
Donc là, il est certain que c'est une indication de consultation en psychiatrie. Et après, la question, c'est comment trouver un psychiatre qui connaît les approches de psychonutrition que je présente dans le livre. Et là, c'est plus compliqué parce qu'on a un besoin de formation qui n'est pas adressé actuellement. Mais dans tous les cas, il faut un suivi psychiatrique pour la prise en charge parce qu'il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte dans le mode de vie. On parle des compléments alimentaires aujourd'hui, mais il y a beaucoup de facteurs qui influencent le risque de dépression. Là, on en a parlé sur l'épuisement professionnel. Hein, chez les étudiants, en plus, ils sont soumis à de grosses pressions, mais avec aussi des carences alimentaires souvent importantes de par leur mode de vie et leurs moyens financiers. Et donc,
prenons un exemple concret, docteur Guillaume Font. Imaginons que cette mère de famille avec sa fille vont dans, une officine ou une parapharmacie, et ils voient du millepertuis réputé lutter contre la dépression. Est-ce qu'on peut, en automédication entre guillemets, prendre du millepertuis pour pallier une déprime passagère ou bien...
Alors, en Allemagne, le millepertuis a une indication reconnue et prescrite par les professionnels de santé pour les dépressions légères à modérées. Après, il y a des risques d'interaction médicamenteuse très importantes. Donc, comme pour tous les extraits de plantes,
approuve.
Oui, complètement.
Comme pour tous les extraits de plantes, en fait, moi, je recommande de prendre l'avis d'un professionnel de santé, ce qui n'est pas la même chose que pour les nutriments, les vitamines et parfois les probiotiques dont on a parlé.
Boris Ancel.
Oui, je ne ferai que confirmer et voir un médecin généraliste, un médecin psychiatre, un psychologue. Il y a des thérapies non médicamenteuses qui marchent très bien. Il faut travailler le sommeil, l'activité physique, la confiance en soi. Il y a des thérapies cognitives et comportementales. S'il vous plaît, aller voir les professionnels qui sont des spécialistes et qui mettent en place, qui est validé, et peut-être dans cette prise en charge, il y aura un complément alimentaire prescrit à bon escient.
Et l'approche produit n'est pas toujours la bonne, et effectivement, parfois, donc, des thérapies complémentaires, c'est extrêmement important, et il faut aller vers ça.
Complémentaire, ça ne veut pas dire complémentaire de la médecine.
Non.
Ça veut dire des thérapies qui sont indiquées par la médecine.
Merci beaucoup, Pauline, de nous avoir appelé. Alors, beaucoup de questions sur la vitamine C. Quels sont les réels effets sur notre vitalité, notre humeur, notre cerveau? Est-il inutile de prendre des gélules de vitamine C tous les jours, docteur Boutef-Nouchette?
Nécessaire de prendre des gélules de vitamine C? Moi, je pense que là, la vitamine C, c'est à travers l'alimentation, les fruits, légumes, qu'on va avoir cette vitamine aux doses correctes. Effectivement, donc la supplémentation en vitamines quand on mange mal peut se justifier, quand on a vraiment peu d'apports de fruits et légumes dans son alimentation. Mais si on a des apports en fruits et légumes, la vitamine C suffit.
Oui, encore une fois, rappelons, c'est pas parce qu'on n'est pas aux 110 mg des références nutritionnelles qu'on est carencé. Et un point sur l'allégation, parce qu'il faut savoir les interpréter. Sur les boîtes de vitamine C, il y a marqué lutte contre la fatigue. Il faut savoir que ça ne va pas être efficace contre une fatigue, entre parenthèses, usuelle, parce qu'on a mal dormi, parce qu'on est stressé, etc. S'il y a l'allégation, c'est parce que la véritable carence en vitamine C, la véritable carence, quand on en mange moins de 10 ou 15 mg par jour en moyenne, oui, ça provoque des fatigues, et dans ce cas-là, la vitamine C est efficace. Mais pour l'immense majorité d'entre nous, ça ne sera pas efficace, et l'ensemble des études est négative sur la vitamine C, sauf peut-être pour réduire un tout petit peu la durée du rhume quand on est enrhumé.
Question de notre auditeur présent au studio, Franck Thérieux, une question.
Oui, j'avais une question concernant la richesse de la viande en fer. Donc moi, je suis éleveur, producteur de veau. Je sais que c'est riche en micronutriments, en fer, en vitamine B12. Or, je connais plein de personnes qui mangent de la viande, et notamment des femmes, et qui, malgré ça, sont carencées et qui font de l'anémie. Donc je voulais savoir quel fer était le plus assimilable, et à part les compléments alimentaires, est-ce qu'on peut y remédier naturellement?
Très très bonne question, docteur Boutef-Nouchette.
Alors effectivement, le fer héminique qu'on va trouver dans la viande est le mieux assimilé. Il y a beaucoup de gens qui font le choix de ne pas manger de viande et qui vont devoir se supplémenter. Donc là, on a pas mal de compléments alimentaires qui sont disponibles. Effectivement, les femmes sont extrêmement carencées en fer en France, donc c'est l'étude Esteban qui a confirmé ça, et donc il y a nécessité de se supplémenter. Alors il y a plein de formes de fer, et notamment les bisglycinates qui sont mis en avant et qui sont mieux assimilés.
Oui, il ne faut pas oublier que quand on a une carence en fer, avant de prendre des compléments alimentaires, il faut éliminer des causes. On passe à côté de cancer du côlon et on arrive au mois de mars. C'est justement...
Pourquoi
va chier là, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure.
C'est
Ali,
la présentatrice du Flash tout
donc,
à l'heure.
Pourquoi? Parce que les maladies du côlon, les polypes ou les cancers saignotent et donc font perdre du fer dans le tube digestif de manière... invisible le plus souvent. Donc, un, quand on a une carence en fer, on doit faire un diagnostic. Deux, ce qu'on ne sait pas, c'est que même chez les personnes chez lesquelles on a éliminé ces causes, il y a quelques pourcents qui ont une maladie cœliaque ou une maladie de l'intestin qui n'a pas été détectée. Donc, très important de faire un diagnostic.
Merci. Beaucoup faudra revenir pour une autre émission sur les compléments alimentaires. Merci, docteur Guillaume Font. Compléments alimentaires et santé mentale, c'est publié chez Flammarion. Professeur Boris Ancel, pour une meilleure santé, c'est votre chaîne YouTube.
Ah oui, on a une émission qui est à la une, qui concerne le sommeil. Comment savoir si vous dormez assez?
C'est quand?
C'est là, c'est en ligne. Vous pouvez aller juste après le journal. Et cette
non, il y a Nagui après. Donc
après Nagui, et on vous dit combien de temps il faut dormir. Arrêtez de dire qu'il faut absolument dormir 8 heures par jour.
Merci beaucoup, docteur Sabrina Boutef-Nouchette. Demain, sommes-nous tous un peu bisexuels? Question, témoignage au 01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France. Et merci à Franck Thérieux d'être venu de Corrèze.
Merci, Ali.